20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est le thème du sacrifice qui sera le fil conducteur de la prochaine saison du Grand Théâtre de Genève, saison qui vient d'être dévoilée. Alors il sera question de déchirements amoureux, mais aussi d'actes politiques et même religieux. Aviel Kahn, le directeur du Grand Théâtre, nous éclairera ce soir sur cette thématique propre à une véritable réflexion sur notre propre société. Avant cela, comme chaque soir, des nouvelles du monde musical. Roselyne Bachelot vient d'être nommée à la présidence de la FEVIS, la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés. Elle succédera à Jacques Toubon, qui occupait ce poste depuis 13 ans, et cela à compter du 19 juin prochain. J'étais arrivée à un point où je n'avais pas le temps matériel de digérer tout ce qui se passait au niveau professionnel et dans ma vie privée. Je n'étais pas heureux, a confié Gustavo Dudamel à la journaliste Marie Audroux dans une interview publiée hier dans Le Monde. Le chef vénézuélien s'est ainsi expliqué sur les raisons qui l'ont poussé à quitter brutalement son poste de directeur musical de l'Opéra de Paris il y a un an, à peine 2 années après sa prise de fonction. La goutte d'eau ayant précipité sa décision a été, confie-t-il, l'annulation d'une tournée prévue au printemps 2023. Et son grand regret est de ne pas avoir eu le temps de parler directement avec les musiciens de l'orchestre avant son départ. Il se dit néanmoins prêt à les diriger de nouveau en tant que chef invité. « On m'invite, j'y retourne avec grand plaisir », avoue-t-il. Une fête du piano à Angers pour le week-end de l'Ascension se tiendra en effet la 2e édition du festival Angers Pianopolis dans le cadre enchanteur des greniers, des jardins et du cloître Saint-Jean, mais aussi un peu partout dans la ville et cela autour d'univers très variés entre jazz et classique. Avec parmi les invités Jean-Paul Gasparian, le trio SR9, la chanteuse Christy Christmanson, Alexandre Kantorov en duo avec Lucas Debargue, Carole Beffa, Paul Lai ou encore le duo Tomaenko Vasilena Serafimova qui présentera son programme Back Mirror. Le célèbre choral Chef Conan de la cantate de la chasse de Jean-Sébastien Bach, revisité ici par Tomaenko et Vasilena Serafimova. Ils seront le 10 mai au Grenier Saint-Jean à Angers, invités du festival Pianopolis, un festival qui se tiendra le week-end de l'Ascension, donc du 8 au 12 mai.
Laure Maison sur Radio Classique.
8 productions lyriques la saison prochaine au Grand Théâtre de Genève. 8 productions qui s'inscrivent dans le cadre d'une thématique, comme aime les concevoir Aviel Kahn, le directeur de l'institution. Alors cette année, c'est la notion de sacrifice qu'il a choisi de mettre en avant à travers de grands standards du répertoire comme Tristan et Isolde de Wagner qui ouvrira la saison, ou encore la Traviata de Verdi qui la refermera, mais aussi avec des œuvres plus rares à l'instar de la Coventina de Moussorgsky ou de Fedora opéra de Giordano et même du répertoire religieux avec une version scénique du Stabat Mater de Pergolèse. Aviel Kahn, qui vient donc de dévoiler sa programmation, nous éclaire ce soir sur sa démarche et notamment sur le choix de cette thématique liée à une notion d'altruisme.
Oui, alors c'est les sacrifices, donc en pluriel, on va voir des variées façons de sacrifices qui, je pense, devraient nous occuper aujourd'hui. Et évidemment, à l'opéra, au tout premier degré, il y a beaucoup de sacrifices, souvent des femmes qui se sacrifient, qui sont sacrifiées. C'est un peu le cliché de l'opéra du 19e, du 18e siècle. Et de l'autre côté, je pense que c'est une thématique très actuelle parce que on a besoin que les gens se donnent de plus pour la société, pour le bien commun. On vit donc quand même dans une crise énorme des démocraties partout en Europe, et pas que. Et je pense que la démocratie, ça fonctionne si l'individu voit le bien commun et sa contribution pour ça. Et ça, on le voit de moins en moins. On le voit sur certaines personnes ou certains groupes, mais quand même dans le grand contexte. Et on trouve aussi, par exemple, tout ce qui est les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est moi, 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 moi. Et je pense, au lieu du moi, il faut le nous. Et je pense sacrifice, ça va beaucoup explorer de la côté politique, de la côté privé, de la côté individuel, ces thématiques.
À travers le sacrifice politique, sociétal et le sacrifice amoureux, vous ouvrez avec Tristan et Isolde. On pourra retrouver d'autres grands personnages amoureux qui se sacrifient. Je pense à la Traviata de Verdi qui conclura la saison, Didon et Énée, un autre ouvrage aussi, Salomé, qui traite du sacrifice. C'est aussi l'occasion de mettre en avant ces personnages qui, par amour, vont trouver en eux une force incroyable pour se sacrifier.
Ou pour demander du sacrifice à l'autre. Par exemple, Salomé, hein, c'est un sacrifice un peu particulier que l'empereur fait pour son propre bien. Oui, c'est l'amour souvent à l'opéra, parce que c'est l'opéra. Mais je pense que c'est surtout la façon des mises en scène et des artistes qu'on a demandé de faire la mise en scène, de revisiter toutes ces questions. Donc la Traviata, fait par Karin Henkel, une des très grandes dames du théâtre allemand, qui va certainement vraiment questionner cet opéra du point de vue féministe d'aujourd'hui. Alors comment une femme peut être aussi quand que Violetta de accepter tout ça pour ce petit idiot Alfredo? Pour dire, si on regarde les histoires d'opéra du point de vue d'aujourd'hui, souvent on a quelques doutes. Est-ce qu'on peut proposer cette histoire? Et je pense là, sans détruire les œuvres, mais plutôt avec la question d'aller à l'essence de ces œuvres, sous le point de vue de ces sacrifices, on va, j'espère, vivre une saison passionnée.
Et puis il y a des sacrifices qui concernent la politique, la société. Je pense à la Clémence de Titus, à la Coventina, Fedora aussi, un ouvrage peu connu de Giordano qui traite du sacrifice.
Bon, Fedora, c'est une espèce de thriller où à la fin, en effet, c'est ça, elle se suicide, la Fedora, plutôt par désespérance, disant, mais il y a beaucoup de sacrifices dedans, c'est un thriller assez politique dans la diaspora russe, des attentats, de la police secrète. C'est assez actuel, en effet. On pourrait en faire un film d'aujourd'hui, de cet opéra. Évidemment, Rovanchina, là, on est dans le cœur d'une très, très grande question politique de notre temps. La question, si la Russie doit être ouverte vers l'Occident, vers l'Europe, ou bien s'enfermer en soi-même et plutôt regarder vers l'Est. Ça, c'est la question clé de Rovanchina, qui termine avec un suicide commun de tout ce groupe, de ce secte religieux qui se sacrifient tous ensemble parce qu'ils ont perdu, parce que Pierre le Grand, il gagne. Donc là, à l'époque, c'était l'ouverture vers l'Europe qui commençait avec Rovanchina. Qui sait où on serait en printemps 2025 quand on va faire cette production, mais je n'ai pas trop d'espoir pour le moment qu'on va être beaucoup mieux qu'actuellement.
Thank you.
La danse des esclaves perses de la Kovanchina de Moussorgski dans l'enregistrement de Claudio Abbado avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. La Kovanchina à l'affiche du Grand Théâtre de Genève la saison prochaine, ce sera au printemps 2025 dans une mise en scène de Calixto Biaito et sous la direction d'Alero Pérez. 8 productions donc la semaine prochaine à Genève, une nouvelle saison que l'on évoque ce soir sur Radio Classique, avec notamment une œuvre religieuse, le Stabat Mater de Pergolèse, mais qui sera donnée hors les murs à la cathédrale Saint-Pierre, dirigée et chantée par Barbara Hannigan et dans une mise en scène très attendue de Romeo Castellucci. Aviel Kahn nous en dit plus.
Bon, des œuvres religieuses, on peut dire, on vient de faire Saint-François d'Assise de Messiaen, c'est assez religieux, même si c'est un opéra. C'est assez commun aujourd'hui, presque trop commun, de faire des mises en scène, des œuvres sacrées, des oratorium, des requiem, etc. Et Castellucci, notamment lui, qui vient de faire le grand requiem de Mozart, qu'il avait fait à Aix-en-Provence, qui tournait le monde... C'est lui qui a proposé de faire le Stabat Mater. Évidemment, là, il a le sacrifice des mères qui se donnent pour leurs enfants. Évidemment, c'est peut-être le sacrifice de tous les jours, de se donner pour son enfant, qui est le plus naturel qu'on a. On va faire ça dans la cathédrale de Genève. C'est un défi, parce que déjà, jouer dans une église, acoustiquement, visuellement, et puis aussi à respecter le lieu de culte actif, ça va être un défi. Et Castellucci, c'est toujours un défi. Et c'est très beau parce qu'on va combiner le Stabat Mater de Pergolèse avec la musique de Giacinto Scelsi, qui est un compositeur du XXe siècle, deuxième partie du XXe siècle, italien, qui est beaucoup avec sa musique en dialogue avec la musique baroque, en effet, et pré-baroque. Et ça va donner, je pense, une très belle soirée entre la musique de Scelsi et la musique de Pergolèse, d'autant plus parce qu'il y a Barbara Hannigan qui va diriger et chanter dans ce spectacle, et à elle se joint Jakub Józef Orliński, un des grands stars contre-ténors de notre temps. Donc ça promet certainement d'être un événement, un rendez-vous lyrique très particulier.
Un Ave Maria tiré des Three Latin Prayers de Giacinto Scelsi, chanté ici par le chœur Les Éléments de Joël Suhubiette, une musique, l'une des musiques de Scelsi qui répondront au Stabat Mater de Pergolèse dans cette production scénique du Grand Théâtre de Genève qui sera donnée en mai de l'année prochaine. Alors, Romeo Castellucci signera à cette occasion sa première création pour la scène lyrique genevoise, tandis que des metteurs en scène comme Calixto Biaito, Michael Talaï, Oppenheimer, qui signera le Tristan et Isolde, ou Milora, qui a été confiée à la Clémence de Titus, sont déjà des fidèles de la maison et y reviendront donc. Autant de metteurs en scène habitués à questionner notre propre société à travers leur lecture de l'opéra, une démarche à laquelle Aviel Kahn est aussi très attentif.
Si vous travaillez avec Milora ou avec Calixto Bieito, ça vient de eux-mêmes, ces questionnements. Et donc, si on parle avec Calixto de Rovanchina, évidemment, on parle beaucoup de notre temps, on parle beaucoup qu'est-ce que ça nous raconte, et comment, sans tomber dans une espèce de banalisation du factuel du moment, comment trouver un chemin de mise en scène qui va montrer la largeur historique de toutes ces thématiques et en même temps nous parler directement au cœur aux spectateurs d'aujourd'hui. Donc, je ne dois pas poser cette question, c'est plutôt une question du comment. Chaque fois avec ces artistes-là.
Donc des opéras qui nous interpellent, qui nous questionnent, des sujets plutôt dramatiques. Que diriez-vous à des spectateurs qui auraient envie un peu de légèreté? Est-ce qu'il y aura une touche de légèreté?
Moi, je pense quand même que Fedora, à la fin du Verismo, c'est un thriller, mais ça va beaucoup de clins d'œil. Il y a du bling-bling, du Gstaad et de Paris et de Saint-Pétersbourg. Là, on a un spectacle fin d'année qui ne va pas être trop lourd. Pour le reste, c'est une saison relativement sérieuse, même que j'aurais dit avec, par exemple, le Stabat Mater de Pergolesi, une musique très populaire, très facile à aborder, la Traviata. Ça reste un Verdi très accessible, même si la lecture va être une lecture d'une femme d'aujourd'hui. Ça reste la Traviata, qui est un spectacle qui attire un très large et grand public. Mais vous pourriez dire que le choix des œuvres de la saison, il n'y a pas vraiment d'opérette. Oui, c'est vrai.
Et puis il y aura des débuts très attendus, Barbara Hannigan qui chantera et dirigera pour la première fois à Genève, Roberto Alagna qui n'avait jamais chanté dans une production au Grand Théâtre de Genève.
Oui, c'est étonnant et c'est pour ça qu'on avait choisi ça ensemble aussi pour sa première venue plutôt vers la fin de sa carrière, on peut le dire, il a dépassé les 60 ans. Il y a Alexandra Kurchak qui se joint à son mari, on sait que c'est un couple, pour chanter la Fedora. Il y a d'autres venues très intéressantes. Emmanuel Chaim avec le concert d'Astrée qui revient faire le Dido aîné de Purcell. Je salue aussi par exemple la Isolde de Elizabeth Street qui est maintenant une des grandes chanteuses wagnériennes du moment qui va venir la première fois à Genève pour chanter Isolde.
Et puis il y a quelques débuts très attendus, notamment dans la Traviata, double prise de rôle, Ruzan Mantachian et Janine de Bic.
Je pense que ce sont vraiment les grands primadonnas à venir, qui sont déjà un peu là, mais modernes, pas des primadonnas de vieille façon. Ruzan, elle a déjà fait Guerre et Paix et La Juif chez nous à Genève avec un énorme succès. C'est une soprano très lyrique, plein, donc plutôt dans la tradition d'une Mirella Freni, de Traviata. Et de l'autre côté, on a Janine de Bic qui vient du baroque. Donc c'est plutôt une Traviata qui vient de la colorature, de la virtuosité. Donc c'est intéressant d'avoir deux personnalités très fortes, mais aussi avec des voix très différentes. Donc il faudrait presque venir voir ces Traviata deux fois.
Au niveau des chefs d'orchestre, on remarque la présence de Jukka Pekka Saraste, un chef qu'on n'associe pas forcément à l'opéra, qui viendra diriger Salomé, une œuvre très symphonique. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Aviel Kahn, de confier la fosse à ce chef finlandais?
Pensez à un chef que je connais depuis très longtemps, notamment au début de ma carrière, j'ai travaillé 3 années à l'Opéra de Helsinki. C'est quelqu'un qu'on a rarement vu à l'opéra, tandis que c'est un grand chef symphonique. Et là, c'est un peu l'opportunité pour un œuvre comme Salomé de solliciter ce type de chef. Et il a accepté, il connaît déjà l'orchestre de Suisse romande, du côté symphonique. Et là, il vient faire sa première Salomé. Et je pense qu'on peut s'attendre qu'évidemment aussi du point de vue d'orchestre, on aura une virtuosité remarquable.
Alors 8 productions lyriques la saison prochaine à Genève, plusieurs ballets aussi et notamment de nombreuses créations sur le plan chorégraphique. Et puis il y a tous ces événements qui se passent en dehors des productions au Grand Théâtre ou hors les murs, jusque sur les plages au bord du lac. Cela s'appelle la plage justement. C'est un moment d'expérimentation, une autre façon de faire venir le public à l'opéra.
Oui, je pense que c'est ça, la plage, toute cette programmation qu'on appelle comme ça, parce que ça fait rêver, c'est la liberté, c'est détendu. Ça devrait donner un point d'accroche pour un nouveau public, pour les gens de vivre le Grand Théâtre comme lieu aussi et comme institution d'une autre façon. Parce qu'on peut quand même vite avoir une idée assez rigide d'une maison lyrique, il ne faut pas que je vous explique. La danse est déjà un peu plus facile parce que le public est plus jeune, les spectacles sont moins longs, il ne faut pas se préparer tellement. Mais la plage vraiment donne la possibilité de découvrir le lieu et l'institution d'une façon beaucoup plus variée, beaucoup plus libre. Et ça nous montre qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent une fois à la plage et puis ils achètent un billet pour un spectacle. Ils commencent à voir l'institution sur leur radar. Que autrement, on ne les aura pas gagnés si facilement.
Un air de Fedora de Giordano, chanté ici par Roberto Alagna. C'est donc avec cet opéra que Roberto Alagna fera ses débuts à Genève dans une production lyrique aux côtés d'Alexandra Courjac pour les fêtes de fin d'année. Le Grand Théâtre de Genève, dont on découvre ce soir la nouvelle saison sur Radio Classique avec celui qui l'a concocté, Aviel Kahn, une saison riche, des productions qui nous amènent à réfléchir, des découvertes également comme ce Fedora. Qu'en est-il du public genevois? Est-il ouvert à ces propositions? On écoute Aviel Kahn.
Bon, il faut insister et rester là-dessus. Et je pense que chaque projet de nouveau, il faut travailler, que le public vient, parce que comme partout, on a de moins en moins d'abonnés et c'est beaucoup plus des billets individuels qu'on vend. Je dirais le challenge est pratiquement pour chaque projet de nouveau, de trouver les raisons d'être pour attirer un public plus large. Parce que les mélomanes qui sont là pour toujours, il y a de moins en moins. Surtout dans une petite ville comme Genève, avec un théâtre comme le Grand Théâtre, qui est disproportionnellement grand pour la taille de la ville. Donc c'est toujours vraiment un grand travail. Et je me réjouis qu'avec Saint-François, là récemment, ça a marché bien. C'est une très belle production. C'est une œuvre quand même qui peut frapper au-delà du mélomane normal. Et espérant qu'on va continuer d'avoir du succès avec cette approche.
Alors, on vient de découvrir la prochaine saison du Grand Théâtre de Genève, mais l'actuelle saison n'est pas terminée. Et notamment, il y aura dans quelques jours, quelques semaines, un événement important. Votre trilogie des Tudors, c'est votre ring à vous.
C'est mon ring italien. La trilogie Tudor de Donizetti, les œuvres sont jouées séparément. Ou quelquefois, oui, une maison décide de les faire une année après l'autre, et puis c'est fini. Et nous avons dit, on veut vraiment faire, à l'issue, quand la dernière production aura trouvé sa première, Roberto Devereux, qui se fait là maintenant en mi-juin, de reprendre les autres deux et de faire une semaine, comme dans un ring de Wagner, de voir tous les trois opéras, Anna Bolena, Maria Stuarda et Roberto Devereux, avec la même distribution, un peu comme dans un ring. Vous avez le même Wotan, la même Brunhilde, le même Siegfried. Donc on aura Stéphanie Doustrac, Elsa Dreissig et Edgardo Rocha, qui feront partie de toutes les trois productions. Et donc, c'est un événement unique parce que j'essayais de regarder qui l'avait fait. Et dans les dernières décennies, je trouvais nulle part où ils ont vraiment fait les trois opéras, même dans les maisons de répertoire, dans une semaine comme ça. Donc, c'est un rendez-vous lyrique que j'espère qu'il va attirer un peu les mélomanes pour se faire une semaine de Donizetti comme un petit festival.
Un air de Mariage Twarda de Donizetti, chanté ici par Diana Damrao, avec l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile et Antonio Papano. Clin d'œil à cette trilogie des Tudors, à savoir Anna Bolena, Mariage Twarda et Roberto Devereux, trilogie qui conclura la saison lyrique genevoise au mois de juin, sachant que Roberto Devereux fera l'objet d'une nouvelle production dès le 31 mai. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Très belle soirée qui se prolonge en musique à l'écoute de Radio Classique. Je vous retrouverai ce week-end. Et puis lundi à 20h, nous recevrons deux jeunes musiciennes, la violiste Agnès Boissonneau-Guilbeault et la claveciniste Nora Dargazondi.